Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité que je vous présente sans plus tarder, Caroline Laurent, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être aujourd'hui devant notre micro pour un dernier roman tout récemment sorti en librairie et qui a pour titre « Rivage de la colère », c'est aux éditions Les Escales. Comment dois-je vous présenter, Caroline Laurent? Je vous laisse le faire vous-même, peut-être.
Alors, vous pouvez me présenter comme une jeune femme d'une trentaine d'années avec une double casquette, une casquette d'écrivaine, c'est à ce titre que vous me recevez, et une casquette d'éditrice, puisque je travaille également aux éditions Stock.
Alors, vous êtes franco-mauricienne et finalement, le roman que j'ai entre les mains et dont il va être question aujourd'hui, c'est un peu grâce au témoignage et au récit que votre maman vous a fait de sa vie passée à l'île Maurice. Île Maurice qu'elle a quittée en 1968, si je ne me trompe.
Tout à fait. L'histoire dont nous allons parler, l'histoire de l'archipel des Chagos, a une résonance tout à fait particulière avec mon histoire familiale. Ma mère, comme vous venez de le dire, est mauricienne d'origine et elle a eu la chance dans les années 60 de vivre avec sa famille, c'est-à-dire avec ma famille, quelque temps sur cet archipel des Chagos et notamment sur l'île principale qui s'appelle Diego Garcia. Elle a vécu là des semaines magnifiques, hors temps, sur un archipel qui ressemblait littéralement à une description de l'Éden sur Terre. Et des années plus tard, en 1975, elle a découvert l'enfer qu'était devenue cette île de Diego Garcia. Et elle m'a toujours raconté ce drame et je vis avec depuis l'enfance. Et maintenant, j'ai réussi à en faire un roman, aussi sans doute pour lui rendre un peu de ce bout d'enfance qu'elle avait vécu là-bas.
Alors, il est beaucoup question d'héritage dans ce roman. C'est une thématique qui est omniprésente. Donc, ce roman, c'est aussi un peu l'héritage maternel.
C'est totalement
mis
l'héritage.
Sur le papier.
C'est totalement l'héritage maternel. C'est aussi pour moi la quête des origines, puisqu'étant franco-mauricienne, raconter une histoire qui se passe dans l'océan Indien, c'est peut-être aller vers moi-même, vers ce que j'ai de plus intime, de plus enfoui en moi. Et c'était une manière aussi de mettre en lumière, bien sûr, un drame historique, réel et pourtant très, très, très peu connu.
Une tragédie même insulaire, écrivez-vous.
Totalement.
Alors, vous avez parlé de l'archipel des Chagos. Avant d'entreprendre la lecture de votre superbe roman, j'avoue que j'y ai eu un plaisir immense parce que en ce mois de février, même si l'hiver n'est pas trop rude, là où j'habite à Avallon, au sud du département de l'Yonne, j'ai eu, grâce à vous, l'opportunité, aux côtés de Marie et de Gabriel, de suivre leur pas sur un sable blanc, une île paradisiaque avec des odeurs qu'on imagine, des arbres exotiques. L'archipel des Chagos, peut-être que quelques précisions géographiques s'imposent tout de même.
Elles s'imposent parce que cet archipel n'est pas connu. Il se situe au plein cœur de l'océan Indien. Pour vous donner un élément plus précis, il est au sud des Maldives. Donc il est assez éloigné de l'île Maurice. Malgré le rattachement à l'île Maurice pendant des années et des siècles même, c'est un archipel perdu du bout du monde.
Alors au centre donc de l'océan Indien. Alors finalement, à des milliers de kilomètres à l'ouest de cet archipel, on a les côtes africaines,
oui.
La Somalie, l'Éthiopie, Somalie, Kenya. Il y a bien sûr cette importante île de Madagascar, donc l'Afrique est à l'ouest, on va dire, je ne sais pas, 4000, 5000 kilomètres.
Oh oui, facile, oui.
Facilement. Et puis donc, on a cette île Maurice qui, elle, est à l'est de Madagascar, à un millier de kilomètres à l'est de Madagascar.
C'est tout à fait ça.
Alors, heureusement, il y a deux cartes qui situent cet archipel des Chagos, qui est aujourd'hui toujours une possession britannique. C'est un héritage du colonialisme anglais.
Oui, c'est une trace en fait de l'Empire qui montre aussi que la décolonisation en Afrique aujourd'hui n'est pas terminée, puisque ce chapelet d'îles, hein, les Chagos, c'est aussi un archipel, c'est-à-dire il y a 65 îles, dont 3 qui étaient autrefois habitées. Eh bien, cet archipel continue à être effectivement du ressort de Sa Majesté la Reine.
Alors ces 3 principales îles de l'archipel des Chagos, donc Diego Garcia, mm-hmm. où se situe une grande partie du roman.
Tout à fait.
Ensuite, on est sur l'île Maurice, mais on aura l'occasion d'expliquer à nos auditrices et auditeurs. Il y a Perros Banos,
oui.
et puis Salomon.
Voilà, qui sont au nord, alors que Diego Garcia est plus au sud.
Et la colonie britannique de l'île Maurice, puisque l'île Maurice a obtenu son indépendance en 1967.
Voilà, en 1967, s'est tenu le référendum et la proclamation officielle de l'indépendance, c'était le 12 mars 1968 exactement.
Alors, il y a 4 communautés à l'île Maurice, les hindous, les catholiques, des chinois et des musulmans.
Tout à fait. Bon.
L'île principale et les îlots de l'archipel des Chagos, des Chagos, pardon. Alors, vous faites ce petit jeu de mots, les chats, le chat miaou miaou et les gosses, les enfants, les Chagos, ça c'était un peu votre imaginaire de petite fille.
C'est ce que j'entendais, voilà, lorsque j'étais Chagos. Enfant, absolument.
1000 habitants.
Ils étaient en tout à peu près 2000 et 1000 sur l'île principale de Diego Garcia.
Alors, les Chagossiens, donc les habitants des 3 principales oui. îles, et surtout la plus importante, c'est Diego Garcia, c'est là où débute le roman. Les Chagossiens sont présentés d'ailleurs de manière assez péjorative. Sous la plume des Britanniques, des colonisateurs, ils sont désignés comme sauvages, sagouins, nègrebois, voleurs, crétins, crevards, fils de rien. Je reprends les termes qui se trouvent dans le roman. Donc c'est une population un peu sauvageonne, très pieuse, puisqu'on le voit sur l'île de Diego Garcia, Marie, votre héroïne, pratique sa religion catholique.
Tout à fait.
Avec beaucoup, beaucoup de respect, dans une vie assez simple, très démunie, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de formalité administrative. Quand un enfant naît, on ne le déclare pas. Il n'y a pas de chômage. Tout le monde travaille dans les plantations de copra, c'est-à-dire qu'on coupe le coco pour en faire de l'huile.
Hein.
Et puis, bien sûr, on vit de la pêche. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur la capture d'un poulpe que Marie tue avec une flèche en visant la tête.
C'était une vie d'une grande simplicité. Je crois que le mot le plus juste, c'est celui-là. C'est simplicité. Et cette simplicité se suffisait à elle-même. C'était des gens qui n'avaient pas finalement besoin de plus. Cette île, quand on la décrit, alors qu'on parle des années 60-70, hein, c'était pas non plus le 18e siècle, eh bien, elle a quelque chose qui nous projette dans un hors-temps. Je trouve que c'est un monde suspendu. Et si c'est un monde suspendu, c'est aussi pour une raison qui me tient beaucoup à cœur, c'est que sur cette île, à l'époque, il n'y avait pas d'argent. C'est une vie faite de troc. Donc, vous avez pêché un gros poisson, et bien en échange, vous allez récupérer une poule. Vous savez fabriquer un meuble, en échange, vous récupérez quelques vêtements par une femme qui saura coudre de son côté. Et l'absence d'argent sur cette île fait que les relations humaines vont à l'essentiel. Donc, il y a une forme de solidarité, effectivement. Les gens vivent en communion avec la nature. Vous le disiez, le travail de la pêche et du coco finalement suffisent aussi à ce qu'il ne manque pas des premiers besoins élémentaires pour survivre. Mais ils sont tout de même aidés quand même régulièrement par les bateaux de ravitaillement. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être produites sur l'île, notamment sur les cultures comme le riz, tout ce qui va être de l'ordre de la farine, le sucre. Ça, c'est importé de l'île Maurice. Donc régulièrement, des bateaux de ravitaillement font escale à Diego Garcia pour approvisionner l'île.
D'ailleurs, le roman s'ouvre, effectivement, je l'ai dit, sur une scène de pêche où Marie, cette jeune femme qui est déjà maman d'une petite Suzanne, voit arriver ce navire qui va donc ravitailler l'île. Alors là, c'est la joie. C'est sans doute le seul moment où quelques étrangers, entre guillemets, viennent sur cette île de Diego Garcia perdue au milieu de l'océan Indien. Alors, il y a aussi le prêtre qui arrive et tout le monde est heureux, il y a une joie. Alors, en revanche, il y a ce terrible massacre du bœuf, ça commence très fort. Là, j'avoue que vous m'avez mis un coup au cœur, dans une espèce de transe autour de cet animal bon, qui débarque mal, qui se brise une cheville et qui est offert à la population qui se réjouit de manger un peu de viande.
Parce que effectivement, là-bas, on mange de la volaille, on mange énormément de poissons, mais il n'y a pas de cheptel. Donc la viande est importée et les animaux arrivent vivants, bien sûr, sur les bateaux. Ils vont servir aussi à la force de travail, à faire tourner la meule du moulin d'huile de coco, etc. Mais non, vous avez raison, ces bateaux de ravitaillement n'apportaient pas que des denrées. Ils apportaient un peu du monde extérieur. Et quand le fameux Sœur Jules, c'est le nom du bateau, débarque en 67, dans mon roman, il apporte une espèce de fièvre, puisque à son bord, il y a certes le curé qui va pouvoir, en quelques jours seulement, marier, baptiser, etc. Et il va aussi apporter un jeune homme qui, lui, vient de l'île Maurice et qui s'appelle Gabriel Némorin et qui sera là pour seconder l'administrateur colonial.
Alors, apparemment, il est superbe. Il est créole, il vient de l'île Maurice.
Il est créole.
Très élégant. Et il vient prendre fonction de secrétaire aux côtés de Molinard, qui est le gouverneur et qui est aussi le responsable et propriétaire de l'exploitation de la copra sur l'île de Diego Garcia. Alors bien évidemment, Marie la sauvageonne, Marie qui marche nu-pied, repère ce beau jeune homme qui finalement a tout de la grâce du colonial tout de même. Il a peur en fait quand il arrive. L'aspect sauvage de l'île, et puis surtout la scène du massacre du bœuf à coups de marteau dans la tête. Et le marteau, c'est, j'en dis pas trop, mais ce marteau, on le retrouve dans une fonction terrible aussi dans le roman. Il a peur quand même un petit peu de cette foule. Pour lui, il découvre des sauvages, il les regarde avec crainte. Pas mépris, mais avec crainte.
Gabriel, pour moi, c'est le trait d'union entre le monde colonial et le monde créole. Il est lui-même créole. Et en ça, je me suis inspirée d'ailleurs de ma propre famille mauricienne. Il est créole, c'est-à-dire qu'il a la peau brune, mais d'un brun beaucoup plus clair que la peau des Chagossiens, qui est une peau noire, plus proche de celle des Malgaches, puisque d'ailleurs les Chagossiens sont des descendants d'esclaves malgaches. Et lui, il a été baigné de culture occidentale, il peut réciter des sonnets de Shakespeare, des tirades de Molière. Il a vraiment été façonné par cet univers occidental très fort. En cela, il est effectivement le dépositaire, on va dire, du colonialisme britannique et français, puisque Maurice autrefois aussi avait été française. Et quand il découvre cette jeune femme et tous les Chagossiens autour, il y a quelque chose de brut pour lui dans la manière dont il se comporte, le rapport au corps, le rapport à la danse, à la musique. On en parlera peut-être, mais la musique traditionnelle du Séga, c'est son nom, est très importante. On frappe les tambours, il y a quelque chose d'assez africain, d'assez tribal dans cette musique-là. Et bien évidemment, pour lui, c'est un monde totalement en opposition avec celui dont il est issu. Donc c'est à la fois très fascinant, intrigant, et en même temps, effectivement, il en conçoit un peu de crainte, parce que c'est exactement ce qu'il n'est pas.
Chère Caroline Laurent, ce n'est pas du Séga que nous allons écouter. En tout cas, nous allons faire une première pause musicale à bord de notre échange. Et puis, bien sûr, nous vous retrouvons dans une poignée de minutes. Je rappelle que votre dernier roman paru aux éditions Les Escales a pour titre « Rivage de la colère ». Et Dieu sait si ce beau roman nous dépayse. On revient sur la terre de Diego Garcia juste après la pause musicale.
Pour voir si le voyage vaut le coup. Un tour de manège autour de nous qui tournons autour de nous, autour de tout. Pour voir si notre amour vaut le tour. Voir si notre amour vaut le tour. Tourne, 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 tourne. Ce beau manège, ce grand manège me met la tête à l'envers. manège autour de nous qui prenons tous les détours, un tour de tournis pour voir si le voyage vaut le coup. Un tour de manège autour de nos vies qui montent et qui descendent, un tour de looping pour voir si notre amour vaut le tour. Voir si notre amour vaut le tour. Tourne, 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 tourne. Ce beau manège, ce grand manège me met la tête à l'envers, me met la tête à l'envers. La, 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 la. Ce beau manège, ce grand
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Rivage de la colère, Caroline Laurent, c'est votre dernier roman. Nous parlions juste avant la pause musicale donc de ce jeune Gabriel qui arrive de l'île Maurice sur l'île de Diego Garcia, jeune homme de 20 ans. Alors bien sûr, il ne reste pas insensible au charme de Marie, et Marie est aussi elle-même amoureuse de ce beau jeune homme. Finalement, rien ne prédisposait à ce qu'ils se rencontrent.
Rien
c'est
du
une sorte
tout.
De mésalliance.
C'est une mésalliance, et elle est en tout cas regardée comme telle par les acteurs extérieurs à leur duo. Parce que c'est un conflit de classe et de peau, en réalité. Elle est trop sombre pour lui, il est trop clair pour elle. Elle est trop près du peuple pour lui, et il est trop intellectuel et trop bourgeois pour elle. Donc ça, c'est les ressorts, on va dire, peut-être classiques de cette narration. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces deux mondes, qui a priori allaient s'entrechoquer, vont être réunis finalement par la tragédie et par l'engagement. Leur moteur commun, ça va être ça. Ça va être la révolte.
Et l'attente de Marie-Pierre La Douceur, notre oui. jeune femme, la met en garde effectivement sur le fait que c'est un homme qui est proche de ceux qui ont le pouvoir. En plus, il sait lire, parce que ses habitants sont analphabètes.
Oui.
Ils le paieront d'ailleurs cher un petit peu plus loin dans le roman.
Oui, et ce livre, je l'ai conçu aussi, je crois, comme une apologie du savoir. Effectivement, les Chagossiens ont longtemps été privés de tout accès à l'éducation. Le système colonial aurait tout à fait pu mettre à disposition des écoles, des enseignants, etc. Ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils n'avaient pas intérêt à le faire. Et ces gens, effectivement, privés de l'art de la lecture, de l'art de l'écriture, sont dès le départ démunis face aux colons britanniques ou même au pouvoir mauricien.
Et effectivement, vous rendez compte dans ce roman, vous avez parlé de cette île paradisiaque, l'état de nature, c'est un peu le bon sauvage. Enfin, je ne sais pas, j'espère ne pas vous choquer en parlant des Chagossiens comme des bons sauvages,
vision,
au sens rousseauiste du terme.
J'entends tout à fait. Cette vision est celle effectivement de Gabriel et on va dire du monde colonial. Pour les Chagossiens eux-mêmes, c'est tout simplement la vie telle qu'ils l'ont toujours connue. Forcément. Je voulais vraiment, moi aussi, épouser le point de vue des Chagossiens dans ce livre, qui est construit sur une alternance entre la vision de Gabriel et la vision de Marie-Pierre Ladouceur, l'héroïne. Et pour Marie-Pierre Ladouceur, qui est une femme elle-même en quête quand même de quelque chose, elle est dans une forme d'attente au début du roman. Elle a envie de découvrir ce monde extérieur, elle a envie d'être un peu secouée par l'apport de nouveautés. C'est ce que représente Gabriel pour elle. Mais de leur point de vue, évidemment, la simplicité de cette vie n'est jamais remise en question, puisqu'ils ne connaissent que cela, ils n'ont jamais vécu autre chose. Et la douceur, finalement, est parfois matinée de violence. On l'a vu dans le sacrifice du bœuf au début du livre. Donc, ce n'est pas si idyllique que ça, en réalité, quand on creuse un peu plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ce qui est très beau aussi, c'est que l'approche amoureuse entre les deux jeunes gens, entre Marie, la Chagossienne, et Gabriel, donc ce jeune homme, qui fuit quelque chose, si on peut le dire.
C'est un personnage en fuite, qui est en rupture avec son père, qui finalement va être en rupture avec son propre milieu. C'est un orphelin de mère, ça c'est très important. Si sa mère avait été là, je pense que son destin aurait été différent. Et c'est un homme en construction qui se cherche et qui a honte, en réalité, des agissements de son père, oui.
Ce jeune Gabriel et Marie, ce qui est joli, alors, c'est que Marie va savoir l'apprivoiser. C'est ça qui est beau. Là encore, le pouvoir des femmes pour attirer à elles les hommes. Et ce jeune homme va succomber.
Le terme est très bien choisi. C'est une histoire effectivement d'apprivoisement. Et là, on aurait pu croire que c'était, on va dire, le représentant du monde éclairé, intellectuel, qui apprivoiserait la sauvageonne, si on l'appelle comme ça. C'est l'inverse qui se produit, parce que Marie, elle a cette évidence du corps en elle, que n'a pas du tout Gabriel, qui est peut-être écrasé par son surmoi. Et lorsque Marie va lui permettre d'assumer aussi ses sentiments, tout simplement, son amour pour elle, son désir, bien quelque chose va se libérer du côté de Gabriel.
Alors peut-être vais-je un peu loin dans les interprétations. Gabriel a une petite particularité sur la peau, en dessous de l'oreille. Mm-hmm. Marie le remarque très vite. Il a une petite tache, un petit grain de beauté en forme de nuage. Et ce nuage est peut-être annonciateur justement de ce qui va plomber cet archipel des Chagos quelques années plus tard, parce que finalement leur bonheur va être éphémère. Ensuite
Bien
c'est la
sûr.
Tragédie et ensuite c'est l'enfer. Quand même.
Ce livre, de toute manière, je l'ai conçu comme une tragédie. C'est à la fois une tragédie amoureuse. L'exergue de Bérénice de Racine au début du livre n'est pas anodine. C'est une tragédie géopolitique, c'est une tragédie humaine, bref. Donc il y a effectivement un certain nombre de leitmotifs, de signes, qui peuvent annoncer la catastrophe à venir. Alors, pourquoi pas le grain de beauté en forme de nuage, annonciateur de tempêtes assez sombres.
Ouais. Alors, de cette liaison amoureuse entre Marie et Gabriel, va naître un petit garçon qui va se prénommer Joséphin. C'est mm-hmm. Marie, d'ailleurs, qui choisit
qui lui donne ce nom.
Et alors, évidemment, pour Gabriel, il devient père un peu jeune, dans des conditions compliquées, en conflit ouvert et très violent avec son père qui se trouve sur l'île Maurice. Il a la chance d'avoir tout de même une alliée de poids et de qualité en la personne de sa sœur, Evelyne. Mm-hmm. Lézard, c'est un petit
son surnom,
petit surnom
oui, affectueux.
Affectueux. Et pour Gabriel, il devient père un peu vite aussi, parce que finalement, en mettant pied sur cette île, on a l'impression aussi, alors ça m'a fait penser un peu, Là encore, je ne voudrais pas exagérer, je pensais un peu à Gide et à toute une jeunesse française bourgeoise qui est partie, qui s'est libérée des carcans éducatifs d'une bourgeoisie, alors pour Gide, protestante, oui, un peu austère. Et peut-être que Gabriel prend goût à une liberté du plaisir charnel, physique. Bon, il y a aussi l'administrateur de l'île qui est un personnage... pas tellement désagréable.
Oui, plutôt débonnaire.
Mal marié aussi.
Mal marié, ça c'est sûr. Sa femme est une vraie pimbèche. C'est un personnage qui évolue en plus. Au début, il pourrait éventuellement nous agacer par un côté très paternaliste. Et au fur et à mesure que les choses s'assombrissent, il gagne en humanité, je crois. Donc c'est un personnage qui est finalement assez structurant pour Gabriel, qui peut être perçu comme un substitut de la figure paternelle. De toute façon, ça me paraît assez clair. Mais j'aime bien l'idée en fait que Gabriel soit un homme qui, malheureusement, c'est un peu la mauvaise étoile qui a présidé à sa naissance, mais soit toujours l'objet du destin. Et même avec Marie, c'est quand même elle qui mène la danse, c'est elle qui fait le premier pas, c'est elle qui le repère d'abord. La première fois en fait qu'ils se rencontrent, ben, c'est une scène d'amour raté puisque lui ne la voit pas. Elle est invisible à ses yeux. C'est après qu'il va faire attention à sa beauté et à sa sensualité, mais la première fois, il ne la voit pas. Et donc, c'est un personnage qui est toujours un peu en décalage, qui se cherche une place, qui cherche à coïncider avec les événements et qui est toujours un peu en retrait, ou trop en amont, ou trop en aval. Et ça le rend attachant, me semble-t-il, parce que dans ses maladresses, dans ses efforts aussi pour coïncider un peu plus avec l'histoire en train de se faire, il est l'objet, il est le jouet du destin.
Et c'est toute la dimension tragique.
Absolument.
De votre roman, mais le tragique, il tombe aussi sur l'ensemble du peuple chagossien.
Avant tout.
Mais je dirais que ce que Gabriel a le bonheur de connaître, grâce à Marie, grâce aussi à cette île, à laquelle il va être de plus en plus attaché, c'est quelque chose de fondateur aussi pour lui.
Oui.
Parce que son rêve, c'est tout de même l'Europe, et notamment Londres, et y faire une carrière...
Ça, c'est son rêve de jeune homme. Et lorsqu'il rencontre Marie et qu'il devient père, effectivement, très jeune, il a le sentiment enfin que peut-être ces rêves-là étaient des rêves fabriqués, et fabriqués par d'autres, alors que la paternité l'ancre complètement dans sa propre histoire. Lorsqu'il devient père, même si c'est déstabilisant, même si c'est pas selon les schémas établis, avec une femme plus noire que lui, qu'on appellerait chez nous une basse classe, qui n'est pas, ils ne sont pas mariés, bref, tout ça est complètement en dehors des schémas traditionnels, et bien malgré tout, il ressent un sentiment de plénitude, et je le dis dans le roman, à un moment, il est presque la mère de cet enfant, tant il investit cette fonction et ce rôle paternel.
Il faut dire aussi que lorsque Gabriel annonce à sa sœur dans des conditions techniques très compliquées,
oui,
elle se trouve sur l'île Maurice, à Grésy, il lui dit « je suis papa, j'ai un fils », la sœur réagit plutôt avec surprise.
Oui, et puis elle est dans une situation extrêmement difficile de son côté.
Elle aussi, elle a un problème avec le père.
C'est ça, son père vient de faire une attaque, elle est seule à devoir s'occuper de lui alors qu'elle n'a que 15 ans. Elle est livrée à elle-même, elle est dans une situation vraiment de grande tension. Et elle appelle son frère à l'aide, et lui ne viendra pas. Donc c'est compliqué pour elle aussi de se penser comme tante à un moment où elle essaye juste d'être une fille.
En tout cas, Gabriel et Marie, en faisant ensemble ce petit bébé, Joséphin, est-ce qu'il transgresse les interdits? Oui, d'une certaine manière,
oui,
puisque le gouverneur de l'archipel des Chagos lui dit bah, « Enfin, bon, que tu fasses l'amour avec, qu'elle soit ta maîtresse, c'est une chose, mais faire un enfant, t'es complètement fou. »
C'est totalement transgressif, puisque c'est... montrer, étaler, j'allais dire, à la face du monde que une union entre guillemets contre nature, puisqu'elle est pensée comme telle à ce moment-là par la société, eh bien, est possible. Donc c'est extrêmement sulfureux. Donc c'est mal perçu et c'est l'administrateur qui refuse d'ailleurs de faire le moindre papier administratif pour enregistrer la naissance de ce fameux Joséphin.
Et puis sur l'île, finalement, l'important, c'est surtout de faire tourner le moulin, que l'exploitation, oui, de la copra soit bonne, parce que le colonisateur britannique surveille de près la production. Et puis Rollinard, lui, sa vie, elle est là. Elle est
sa
liée
vie, elle est,
autour,
oui,
des plantations de copra.
Elle est économique, C'est une vieille économique. Il a presque tout sacrifié à cette plantation. Il désire ardemment que les chiffres soient les meilleurs possibles. Il est vraiment centré autour de toutes ces questions. Et le reste lui importe peu.
Alors, il y a, c'est page 185. Je vais vous demander de nous lire, c'est le témoignage, donc c'est Marie qui raconte la vie de ses ancêtres. Est-ce que, Caroline Laurent, je peux vous demander de nous lire ce passage, s'il vous plaît ?
Avec plaisir. Mes ancêtres étaient des esclaves, des nègres marrons. À l'abolition de l'esclavage, en 1835, ils ont décidé de rester au Chagos et n'ont plus jamais quitté l'archipel. Je suis moi-même née à Diego Garcia et j'y ai vécu jusqu'à ce qu'on me force à partir en 1971. Ma mère nous a éduqués simplement, ma sœur et moi, en nous transmettant les valeurs essentielles. C'était une éducation adaptée à notre vie au Chagos, pas à la vie à Maurice, qui était déjà un pays développé, avec ses propres règles, sa propre économie. Maurice, ça allait pour de courts séjours, des visites médicales. Pas pour y vivre. Ça explique pourquoi on a tant souffert après. Là-bas, la plupart des gens travaillaient dans le copra et la pêche. Moi, je cassais le coco dans la plantation. Je n'ai jamais eu aucun contrat de travail. Aucun chagossien n'en avait. Pourquoi faire ? Tout le monde travaillait, le chômage n'existait pas. On mangeait à notre faim, des choses saines, c'était simple. En plus de notre ration de riz, de sucre ou de légumes, on avait droit de temps en temps à des bidons de vin. Le quotidien était paisible, on allait à notre rythme. Ce n'était pas une vie économique. Au Chagos, chacun avait sa maison. Si on n'en avait pas, on choisissait un bout de terrain et on prévenait l'administrateur qu'on allait construire quelque chose à cet endroit. Chez moi, on était trois. Ma fille Suzanne, mon fils Joséphin, et moi. La religion comptait beaucoup. On faisait nos prières et souvent, avec ma sœur et les petits, on allait fleurir la tombe de nos ancêtres, surtout celle de ma mère. Quand on a été forcé de partir, on a perdu tout ça. On a perdu nos biens matériels et immatériels. On a perdu nos emplois, notre tranquillité d'esprit, notre bonheur, notre dignité. Et on a perdu notre culture et notre identité.
Merci Caroline Laurent pour la lecture de cet extrait de votre dernier roman intitulé « Rivage de la colère », roman disponible en librairie aux éditions Les Escalons. On marque une nouvelle virgule musicale à bord de ce wagon livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion et nous nous retrouvons juste après avec notre invité.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Caroline Laurent qui est aujourd'hui devant le micro de votre émission littéraire pour son dernier roman sorti en librairie en janvier dernier et intitulé Rivage de la colère. Caroline Laurent, il nous faut maintenant évoquer les événements de 1967. En effet, l'archipel des Chagos a subi le contre-coup de l'indépendance de l'île Maurice.
C'est tout à fait ça. Alors, je vais essayer d'être aussi clair que possible parce que la situation géopolitique à l'époque est un peu complexe.
Alors, il faut dire que les Britanniques ont donné leur indépendance. Donc, il y a eu l'Inde, le Nigeria, le Kenya et arrive le tour de l'île Maurice.
Voilà, l'île Maurice. Donc, après 158 ans quand même de domination britannique, les Anglais acceptent de rencontrer de façon secrète ceux qui allaient devenir les premiers dirigeants républicains mauriciens pour leur parler de l'indépendance. Ils tombent d'accord sur le fait d'organiser un grand référendum, sauf que ce référendum, en réalité, n'a pas été tout à fait complet. Et voilà pourquoi. C'est que les Britanniques avaient décidé, quoi qu'il advienne de toute façon, de garder pour eux l'archipel des Chagos. Or, cet archipel était rattaché à Maurice. Il aurait dû faire partie, en fait, de l'ensemble du territoire soumis à la question de l'indépendance. Il a été retranché en amont. Et pourquoi ? Parce que les Britanniques avaient bien compris l'intérêt stratégique de cet archipel au plein cœur de l'océan Indien. Rappelons qu'on était en pleine guerre froide. Les Américains cherchaient des positions pour contrer les Soviétiques dans cette zone du monde. Et la meilleure façon pour eux de le faire, c'était d'avoir une base militaire au plein cœur de l'océan Indien. Et les Anglais ont accepté ça. Ils ont accepté de proposer finalement en location, puisque c'est un bail, aux Américains, ce territoire de Diego Garcia qui donc est devenu une base militaire toujours opérationnelle aujourd'hui.
Et alors vous racontez effectivement l'arrivée de soldats britanniques armés, Molinar qui réunit la population de Diego Garcia et qui leur dit vous avez une heure en fait pour prendre l'essentiel et vous allez devoir quitter l'île, on va vous transporter,
déporter,
parce que c'est une déportation.
C'est une déportation.
Mais lui ne dit pas cela à la population, mais effectivement, la population est déportée vers l'île Maurice. Et là, Marie, comme tous les habitants de l'île, n'ont plus qu'à subir.
Voilà, donc ça, c'est vraiment un fait historique que j'ai après romancé un tout petit peu avec mes personnages. Mais un jour de janvier 71, effectivement, tous les habitants de Diego Garcia ont été convoqués sur la plage principale. Ils sont tombés face à ces soldats anglais surarmés qui aboyaient des ordres que eux ne comprenaient pas car ils ne parlaient pas l'anglais. Et on leur a donné une heure, montre en main, c'est pas encore une fois une vue de l'esprit, une heure, pour rassembler leurs maigres affaires dans, même pas des valises, c'était des gens qui n'avaient pas de valises, dans des draps. Donc, qui une casserole, qui un souvenir, qui quelques couverts. Et ces gens, sans comprendre ce qui se passait, ont donc été jetés dans les cales du bateau qui s'appelait le Nordvert et déportés massivement à Maurice pour faire place nette. Parce que cette fameuse base militaire, on ne pouvait pas la monter tant qu'il y avait des populations autochtones sur l'île. C'est pour ça qu'ils ont été expulsés violemment. Et ce qui a été terrible pour eux, outre le fait bien sûr de devoir abandonner tout ce qui avait fait leur vie jusque-là, c'était abandonner leurs bêtes, c'était abandonner leurs cases, leurs quelques biens, et c'était aussi, chose très importante pour eux, abandonner leurs morts au cimetière. C'est un élément sur lequel les Chagossiens aujourd'hui reviennent systématiquement, c'est comment s'occuper de nos morts, comment entretenir notre mémoire, comment garder un lien avec nos racines, s'il n'y a plus personne pour s'occuper de nos stèles et de ce qui montre bien que nous étions là depuis tant et tant d'années. C'est déchirant.
Et effectivement, il y a ce petit cimetière qui va très rapidement être envahi par les ronces. Il y a le fait qu'une fois que la population a été placée sur le navire qui va les déporter vers l'île Maurice, il y a tous les chiens de l'île qui vont être gazés et jetés dans le calorifère. Ça, c'est, il y a des choses vraiment terribles, terribles. On a l'impression suppression de toute vie sur l'île.
Je trouve que pour nous autres Européens qui connaissons bien, hélas, les atrocités du XXe siècle, cette technique, si je puis me permettre, de gazage en rappelle bien d'autres. C'est la manière la plus abjecte de nier, en fait, toute humanité à des gens. Et je pense sincèrement que ces populations noires analphabètes n'ont pas pu se défendre, n'ont pas eu les outils, n'ont pas eu ni intellectuels. Alors on ne parle même pas d'armes parce que c'était une population totalement pacifique, mais même pas les outils intellectuels pour pouvoir réagir et s'opposer à ce moment-là. Et qu'ils n'auraient pas pu faire la même chose sur une île, on va dire, peuplée de blancs éduqués. Voilà, c'est une certitude profonde.
Alors, ils n'ont pas de soutien, en tout cas juridique, pas
au
dans
départ,
les premiers temps. Mais ils pensaient qu'ils partaient en se disant, nous retournerons sur l'île.
Parce beaucoup pensaient ça, effectivement.
On ne leur a pas dit. Mais est-ce que votre maman a des souvenirs de l'arrivée des Chagossiens à l'île Maurice?
Alors, elle n'en a aucun, pour la bonne raison qu'elle est partie juste avant qu'eux n'arrivent. Alors, il y a deux choses. La première chose, quand même, c'est que de toute façon, la population mauricienne, n'était pas informée de cette déportation. Tout a été fait dans le silence des couloirs du pouvoir.
Mais les Mauriciens ont bien dû voir tout de même des bidonvilles se
Tout créer. Ça a été très diffus, c'était extrêmement complexe. Ils pensaient que c'était des gens pauvres, mais pas forcément des Chagossiens.
Des mendiants,
exactement. Des gens laissés de côté par la vie économique dont on parlait tout à l'heure. Donc, parce qu'ils leur ressemblent, ces Chagossiens aussi. Ces Chagossiens ressemblent aux Mauriciens issus des classes les plus défavorisées, aux créoles noirs. Donc, ils se fondaient aussi dans la société mauricienne. Et cette histoire n'étant pas connue, bien finalement, il y a eu une espèce d'omerta, de silence pendant des années et des années. Il a bien fallu attendre 5 ans après leur arrivée pour que les choses éclatent au grand jour. Et à côté de ça, donc, ma propre mère, au moment de l'indépendance, elle-même a quitté l'île Maurice pour l'Europe. Donc elle est partie avant de savoir ce qui s'était passé. Mais lorsqu'elle a découvert ce drame, cette tragédie, elle a été absolument horrifiée, scandalisée. Et je crois que la colère qu'elle a ressentie à ce moment-là, c'est ça qu'elle m'a transmis quand moi j'étais enfant. Et ce roman est né de cette colère partagée. Ça, c'est une évidence pour moi.
Rivage de la colère,
oui.
Ravage de la colère aussi, d'une certaine manière.
Oui, alors sauf que cette colère-là, elle est bonne, elle est nécessaire, c'est une juste colère. C'est une colère qui correspond à un élan de vitalité, c'est une colère qui dit la dignité aussi de gens qu'on a voulu écraser et qui ont relevé la tête. Donc la colère, elle est plus du côté du moteur, de l'élan, que du côté là du ravage. Le ravage, il vient du pouvoir, de ceux qui croient en plus incarner les valeurs démocratiques. Nous parlons de l'Angleterre, nous parlons des États-Unis. Donc c'est vraiment pour moi une histoire de colonialisme toujours pas réglé.
La colère, elle est incarnée par Marie. On a le sentiment que les femmes sont plus courageuses que les hommes. À un moment, il y a un des garçons qui serait le prétendu père de Joséphin. Là aussi, il y a un certain flou. À un moment, il y en a un, il pleure comme un bébé. Même, il y a des hommes qui pleurent, qui sont effondrés par rapport au drame, mais ce sont les femmes qui réagissent.
Alors ça, c'est historique. Les premières à avoir protesté, manifesté, résisté, eh bien, c'était les femmes. Donc, dans les faits, trois femmes, trois résistantes, ont commencé à manifester pour la cause chagossienne à peu près dans les années 75-76. Et elles ont été véritablement les fers de lance de ce combat pour la cause chagossienne. Donc, mon héroïne, elle se devait d'incarner effectivement cette voix des femmes. Mais pourquoi les femmes étaient en première ligne ? Parce qu'elles n'avaient pas le choix. C'est finalement assez simple et assez bête. C'est qu'elles devaient se battre pour leurs enfants, que souvent elles élevaient seules. Donc si elles n'y allaient pas, si elles n'osaient pas vraiment se lancer dans le combat, mais tout simplement, leurs enfants pouvaient mourir de faim devant leurs yeux. Moi, je me suis rapprochée des Chagossiens, j'ai enquêté dans les archives chagossiennes, et certains me racontent ce que leur disait leur mère. C'était impensable pour elles d'aller se coucher sans que leur enfant ait un petit quignon de pain dans le ventre. Et si pour ça, il fallait aller fouiller dans les poubelles, eh bien, elles allaient fouiller dans les poubelles.
D'ailleurs, il est question, en fait, de macatia coco, il y a des carailles, de 4-4 manioc.
Oui, absolument, 4-4 manioc.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un plat traditionnel à base donc, de manioc coupé en petits dés, donc coupé en 4, d'où le 4-4, c'est ça que ça veut dire, et mélangé avec un petit peu de reste de viande de porc.
Alors, il y a aussi, je crois que c'est ce que j'aime, c'est les petits proverbes maximes créoles. Alors, il y en a une, c'est « toutes les vérités font font pas du miel dans la gorge. Mmh. Et puis, il y en a une autre, c'est le cheval mord la roche, mais c'est le cabri qui casse sa dent.
Et oui, la sagesse populaire telle qu'on la connaît.
Caroline Laurent, on marque une dernière pause musicale et viendra le moment de conclure juste après.
Le temps filé, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux. Ils disaient que la vie c'est des terrasses et puis du soleil des fins du jour. Ils disaient que les rêves c'est la prose de la vie, qu'il faut y croire toujours. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Il disait qu'à son âge c'est l'heure d'aller au nuage, le sourire jusqu'au bout. Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaîtra à son tour. Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères et puis nous au milieu. La vie c'est pas grand chose, des rêves et de la prose, mais fais-en ce que tu veux. Avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Caroline Laurent, Rivage de la colère. On n'a pas trop raconté le roman et c'est très bien ainsi. Mmh. Et j'encourage vraiment nos auditrices et auditeurs à se procurer votre dernier ouvrage aux éditions Les Escales, Rivage de la colère. Les morts, il en est beaucoup question. Bon, Gabriel a perdu très jeune sa mère. Marie a également perdu très jeune sa mère. Et vous en avez parlé, des morts. J'ai relevé cette phrase. Tu sais quel est le problème des morts, Gabi? Je crois que c'est Marie qui dit cela à Gabriel. C'est qu'ils ne meurent jamais. Leurs fantômes sont plus vivants que toi et moi. Et puis une autre citation. Nos seules couronnes à nous étaient celles de nos morts. À la fin du roman, des Chagossiens auront la possibilité de faire une petite visite surveillée de leur île. Et les morts, là, j'ai pensé aussi à Jules Roy, quand il retourne en Algérie sur la tombe de sa mère où tout a été dévasté, où il ne reste rien. Hein. Là aussi, c'est absolument le sacrilège. Et comme vous dites aussi, ces morts qu'on a laissés enfouis dans la terre où ils ont vécu et qu'on ne retrouve pas, il y a quelque chose d'absolument insupportable et douloureux. C'est ce qui arrive un peu encore
Disons que pour eux, de voir leur cimetière laissé à l'état d'abandon, alors que du côté des Américains, des soldats, Il y avait des tombes impeccables qui étaient les tombes des chiens des soldats. Donc, c'est vraiment l'histoire quand même de David contre Goliath. On a deux poids, deux mesures. Les chiens américains ont des tombes impeccables et les tombes des êtres humains chagossiens sont laissées à l'abandon. Je crois que pour eux, ça, c'était absolument révoltant parce que c'était les nier une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on leur retirait la possibilité de vivre sur la terre où ils étaient nés. Et en plus, on leur empêchait d'avoir ce culte, en fait, de leurs racines, tout simplement. Et c'était une façon, je pense, pour les Américains et les Britanniques, de faire oublier peut-être que cette île avait une histoire. Voilà.
Alors, il y a aussi, bien sûr, un jeu entre l'action des années 67, 68, 71, 73, et puis il y a des retours vers le présent avec plusieurs voix, notamment le fruit de la liaison entre Marie et Gabriel, c'est-à-dire le petit Joséphin qui, lui, continue le combat.
Oui.
Caroline Laurent, est-ce que je peux vous demander de lire, justement, une forme de j'accuse à la Zola?
Volontiers.
Sous la forme... voilà, je vous laisse le soin de partager cela avec nos auditeurs.
Merci. J'aurais préféré ne jamais naître, ne pas avoir à endurer ça. 50 ans de combat, d'appels, de sollicitations, de réunions d'avocats, de procès, d'attentes. Pitié pour les Chagos, crie la presse aujourd'hui. Quelle pitié! Je vous la laisse, celle-là. Je n'en veux pas. Justice, dignité, liberté des peuples. Ce que nous demandons à nos adversaires, inventeurs de ces valeurs, c'est de se les appliquer à eux-mêmes. J'accuse le gouvernement anglais de nous avoir monnayés et sacrifiés sur l'autel de la guerre froide. J'accuse le Premier ministre Harold Wilson de nous avoir rayés de la carte de notre propre pays. J'accuse les dirigeants mauriciens de l'époque d'avoir trahi l'indépendance. J'accuse les élites coloniales de nous avoir laissés dans l'ignorance. Pas d'école, pas de livres, pas de révolte. J'accuse l'armée américaine d'avoir fait de notre île une citadelle d'acier. J'accuse le silence qui entoure depuis trop longtemps notre drame. Il est temps de faire tomber les masques.
Alors Caroline Laurent, vous avez pris, vous, fait et cause pour les Chagossiens, puisque vous parlez d'un homme à la fin, alors c'est dans la
poste. Olivier Bancourt.
Merci,
absolument.
Parce que son nom ne me revenait pas.
Absolument,
alors,
Olivier Bancourt.
Qui est cet Olivier Bancourt que vous
je connais très très bien et qui est devenu un ami, je crois pouvoir le dire. Olivier Bancourt est l'actuel leader du groupe Réfugiés Chagos, qui est le groupe de résistants chagossiens toujours installé à l'île Maurice et qui se bat pour la reconnaissance de ses droits devant les plus hautes instances de la justice internationale. Donc il a mené de nombreux combats à Londres, à la Haute Cour de Londres, donc avec des avocats. Et il y a peu de temps, c'était encore plus haut puisque c'était à la Cour internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas. Et c'était un grand procès qui opposait Maurice et les Chagos d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre. Et il se trouve que moi, j'étais avec eux, effectivement, associée à la délégation chagossienne et que donc j'ai assisté aux plaidoiries des deux parties ce jour-là, en septembre 2018.
D'ailleurs, c'est aussi un roman qui s'inscrit dans le milieu du XXe siècle. Vous l'écrivez, le XXe siècle avait choisi son camp. Et ce serait celui du mensonge, de l'effroi et de la haine. J'espère que le XXIe siècle fera beaucoup mieux.
Pour l'instant, on n'a pas tellement l'impression, mais essayons de garder une note d'optimisme, effectivement. Je crois effectivement que le sort des Chagossiens, et c'est ce qui me touchait aussi dans leur histoire, au-delà des échos plus personnels, plus intimes, eh bien c'est une histoire universelle. C'est l'histoire de l'attachement aux racines et du déplacement. C'est l'histoire de la justice et de l'injustice. C'est l'histoire aussi de la révolte dans ce qu'elle peut avoir de plus beau. Et c'est quelque chose de très simple et pourtant d'essentiel, c'est de montrer, de dire, de répéter que chaque vie humaine compte. Voilà.
Et d'ailleurs, l'optimisme, vous le montrez d'ailleurs dans le dernier paragraphe de votre roman. Dans la Bible, David finit par l'emporter sur Goliath. C'est mon rêve, naïf sans doute. Je sais bien qu'aucun livre n'a le pouvoir de renverser le monde, mais on a déjà vu l'opinion transformer le cours de l'histoire. Peut-être réussirai-je, par l'écriture, à faire de ma colère un peu la vôtre, tout en rendant à ma mère ce morceau d'enfance qui nous unit. Merci, Caroline,
merci.
Laurent,
merci.
Grand bonheur de lecture en ce fin d'hiver, printemps qui arrive 2020, Rivage de la colère aux éditions Les Escales, sous la plume magnifique, et sous le soleil, sous le cyclone aussi. Parfois, hein, n'oublions pas.
C'est tempétueux les tropiques.
Voilà, c'est l'océan Indien. Merci Caroline Laurent
d'avoir
été avec nous.